Vous écoutez RTL.
C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un.
RTL.
Jeunesse, le petit train s'en va.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Raphaël, Richard Anthony, Grand Corps Malade et Dorothée, parce que notre réalisateur André Facetta retombe en enfance de temps en temps. Pourquoi ces chansons consacrées au train? Parce qu'il y a 100 ans, presque jour pour jour, le Transsibérien était achevé, une ligne de chemin de fer mythique, l'occasion pour nous de vous raconter la construction de ces trains de légende avec notre invité Clive Lamming. Vous êtes l'un de nos sociétaires, vous êtes surtout un grand historien des chemins de fer. Grâce à vous, on va voyager, on va rêver. Avant de partir vers Vladivostok, on va raconter l'histoire du train français et d'un homme très important pour nos lignes de chemin de fer. Il s'appelle Alexis Victor Legrand. Qui est-il ?
Alors, Alexis Victor Legrand, c'est l'inventeur de l'étoile de Legrand. C'est un haut fonctionnaire qui n'est pas dans les étoiles, mais qui a au moins trouvé une étoile. C'est la forme du réseau français. C'est-à-dire que Paris est au centre et vous avez des quantités de lignes qui rayonnent. Le réseau ressemble un peu à une roue de bicyclette posée sur la France. D'ailleurs, je vous signale que ça traduit le centralisme, la volonté de centraliser. Des pays comme le Royaume-Uni ont exactement le même type de réseau. Londres est au centre, ou encore Moscou. Alors que les pays, je dirais, multipolaires sont des pays très décentralisés, comme par exemple l'Allemagne ou les États-Unis, qui ont ce qu'on appelle, surtout aux USA, des hubs multiples.
Elle est formidable, cette étoile Legrand. À la fois, on la maudit aussi aujourd'hui, parce qu'elle est faire Marseille-Bordeaux.
Oui,
c'est plus compliqué, oui.
C'est plus compliqué.
Vous savez, ça rappelle le fameux sketch que j'aime beaucoup de Las Palès, je crois. Vous savez, où on part de Brest pour aller à Pau, mais il faut quand même passer par Strasbourg, parce que finalement, on se bat avec les... Il y a le manque de ce qu'on appelle les radiales. Et c'est le ministre Fraissinet, d'ailleurs, qui essaye en 1878 de construire ces fameuses radiales qui manquent, mais qui ne seront jamais rentables. Et aujourd'hui, toujours, les lignes, les transversales. On n'a que des radiales et il manque les transversales. Oui. Et aujourd'hui encore, seules les lignes transversales sont réellement rentables. La plus rentable étant celle de Paris à Lyon.
Mais il date de quand, le premier train français ?
Alors, quand vous dites train, je vous reprends avec beaucoup d'affection. Il s'agit de chemin de fer.
Oui.
Parce que ne confondons pas, le train roule sur une ligne. L'ensemble forme un chemin de fer. Alors, les premières lignes françaises, personne ne le sait exactement, pas même moi qui pourtant je sais tout. Disons qu'elles apparaissent, dans les mines. Par exemple, les mines de potasse en Alsace au XVIe siècle. Alors, on cite souvent la ligne de Saint-Étienne à Andrézieux, mais c'est une ligne de type minière, avec des plans inclinés, des chevaux, des machines à vapeur fixes qui halent les wagons en haut des rampes et ensuite elles descendent d'elles-mêmes, les voitures descendent d'elles-mêmes.
Et là, c'est
la première vraie ligne moderne, avec une locomotive à vapeur, des horaires, des voitures voyageurs qui rouspètent, des retards et des gares et un service commercial, c'est Lyon-Saint-Étienne en 1833. C'est la première vraie ligne moderne.
Clive Lamming, vous publiez Chemin de fer mythique, c'est aux éditions Duchesne. Il y a certaines voies françaises qui ont été plus périlleuses à construire que d'autres, en montagne notamment.
Périlleuses, pas forcément, mais surtout placées sous le signe de la non-rentabilité la plus complète. Dans le Massif central, il n'y a pas grand-chose à relier. Et vous savez, dans les Alpes, je vais me faire des amis du côté de... Ou par exemple le Jura, n'est-ce pas, les magnifiques boucles de Morée. Ce sont des lignes qui vont nulle part. On l'appelle la ligne de Morée, d'ailleurs la ligne des Hirondelles. Le chemin de fer, contrairement à une idée fort répandue, ne crée pas la richesse. Il la transporte. Et là où il n'y a pas de création de richesse, eh bien, il n'y aura pas de création d'emploi.
Mais créer une ligne dans la montagne, ce n'est pas facile à construire quand même.
Ce n'est pas facile à construire parce que les locomotives n'aiment que les rampes qui fassent 4 ou 5 pour 1000. Alors que les voitures, c'est du 4 à 5 %. C'est-à-dire que
le chemin de
fer doit être complètement plat. Il faut que les rampes, c'est-à-dire quand ça monte, et les pentes, c'est quand on descend. Mmh. Les automobilistes disent monter et descendre, mais je parle de chemin de fer. C'est rampes et pentes. Alors, les locomotives ne peuvent rouler que pratiquement que sur des lignes plates. Quand il y a des montagnes, c'est la catastrophe. Il faut faire des tunnels, il faut faire des viaducs pour sous les enjambées des vallées. Alors que la route, elle se glisse partout. Elle fait des épingles à cheveux. Elle monte, elle descend. Donc, le chemin de fer en montagne coûte cher. Les locomotives sont peu puissantes à l'époque. Donc, les trains pèsent très, très peu. Donc, il ne peut pas y avoir de rendement. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui nous passons notre temps depuis une vingtaine d'années à refaire tous les réseaux d'Europe en supprimant les montagnes, en faisant des tunnels de base.
Mais
que ce soit le Gotha, le Lochberg ou bientôt le Lyon-Turin, on fait des tunnels, je dirais presque au niveau de la mer.
Mais Clive Lamming, dans ce système français, la SNCF, elle apparaît quand ?
Alors la SNCF apparaît en 1938, c'est le Front populaire en 1936 qui, d'un seul coup, je dirais d'un coup de force, résout le vieux problème de la nationalisation des chemins de fer. Les chemins de fer sont déficitaires depuis 1978, c'est le projet de loi qui reste le record à l'Assemblée nationale. Pendant 50 ans, on débat en vain de la nationalisation des chemins de fer qui sont déficitaires. On veut les donner à l'État, vous savez bien. On privatise les bénéfices, mais on donne à l'État les pertes. C'est bien connu dans la gestion. Alors là, on veut donner à l'État les chemins de fer parce qu'on perd. Mais il faut indemniser les actionnaires. Ces braves gens qui n'ont que 4%, mais ils sont gentils par rapport aux 15% qu'il faut aujourd'hui. Ces actionnaires-là, malgré tout, réclament une indemnité. Ça fera traîner jusqu'à 1938. Et la SNCF est créée juste malheureusement avant la veille de la Première Guerre mondiale. Elle n'aura pas le temps de prouver son excellence.
On va continuer de raconter l'histoire de ces trains mythiques reliés deux villes sur une carte. Ça semble tout simple, mais quand il s'agit de construire la ligne, tiens par exemple Moscou-Vladivostok, les ennuis commencent. Restez avec nous sur RTL.
On est bien entre curieux sur RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Bonjour monsieur, j'aurais voulu s'il vous plaît les horaires de train pour aller à Pau.
Monsieur.
Bonjour monsieur.
Pau.
C'est ça, oui, les horaires de train pour aller dans la ville de Pau.
Alors Pau.
Bah oui, Pau avec un P.
Alors Pau.
Oui, comme ça s'écrit, pareil.
Pau.
Oui, bah je suis pas arrivé, moi.
Le fameux sketch du train qu'on adore de Chevalier et Las Palès. On a la curiosité de découvrir ces trains de légende pour Pau et ailleurs avec notre invité, l'historien Clive Lemming, à l'occasion du centenaire de la construction d'une ligne mythique et d'un train, le Transsibérien. Cette ligne, elle existe toujours. Vous nous faites les présentations, Clive.
Cette ligne existe toujours, elle se porte fort bien, elle est électrifiée, elle est très moderne et elle transporte un tonnage impressionnant. D'ailleurs, elle est en train de s'emparer du tonnage disponible entre la Chine et l'Europe. Malheureusement, elle est pénalisée d'ailleurs par un écartement différent. Elle fait à peu près 9000 km, si vous voulez, donc 7000, si vous voulez, je dirais en ligne droite, par la Mandchourie, vous savez, à un moment donné, on peut couper, on peut quitter la Russie, et près de 9000 si on fait le tour complet. Mais la véritable ligne ne commence pas à Moscou, elle commence à Zlatost, voyez-vous.
Il y a ce qu'on appelle... C'est où ça?
La ligne d'avant le Baïkal, et après, il y a le Cisbaïkal et le Transbaïkal. C'est-à-dire que la ligne transsibérienne qu'il fallait construire à l'époque, elle ne partait pas de Moscou. Moscou avait déjà un chemin de fer sous Alexandre III.
Mais c'est quel type de train? Sur cette ligne, sur ce transsibérien, c'est des trains modernes ou il y a encore des trains d'époque, si j'ose dire?
Alors, les trains d'aujourd'hui sont des trains modernes, mais les tout premiers trains qui ont circulé vers 1900, c'était des trains absolument magnifiques. Et vous savez que l'Union soviétique, d'ailleurs, les a réservés à ses élites et a même donc construit des voitures encore plus belles. Il y avait un luxe énorme. Il y avait, par exemple, un fumoir oriental où il y avait aussi un gymnase avec ce qu'on appelait des vélocipèdes de chambre.
Oh,
moi qui suis quelque part un peu britannique, je devrais dire home trainer, n'est-ce pas, en bon français, chose que je déteste
faire. Ah, c'est ça, votre petit accent.
Ce sont des vélocipèdes de chambre, cher monsieur.
C'est ça,
et on pédalait
accent.
Dans le vide tout en contemplant les bouleaux qui défilaient pendant 7 jours.
Il y avait même une terrasse, c'est ça en,
alors oui,
en,
il y avait une
terrasse,
ce que les Américains appellent observation platform, à la fin de l'observation car, c'est-à-dire ces terrasses, vous savez, avec lesquelles d'ailleurs les Américains tiraient, faisaient de la chasse. Voyez, mais alors, il y avait donc des terrasses pour admirer les paysages. Seulement, la température permettait quand même moins.
C'est ce que j'allais vous dire.
Il fait quand même extrêmement froid. Ouais. Donc, ces terrasses n'ont pas duré longtemps.
Clive Lemming, vous publiez Chemin de fer mythique aux éditions Duchesne et vous racontez l'histoire justement de ce transsibérien. Qui c'est qui en a l'idée? Qui c'est qui construit cette ligne?
Qui construit cette ligne, c'est Alexandre III, qui d'une part veut être moderne, veut être à l'européenne. Cet immense empire de 22 millions de kilomètres n'a que 14 kilomètres de chemin de fer par kilomètre carré. Par exemple, en France, en Europe, on en est à 17 ou à 18, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chemin de fer. Alors, il veut d'abord être moderne, et deux, il veut surtout gagner la guerre contre le Japon. Et ce chemin de fer servira à transporter les troupes. Seulement, Alexandre III fait une erreur très grave. Il fait appel à du travail, je dirais, low cost, au noir. Il vide les bagnes, les prisons. Et ces gens fort peu motivés font un si mauvais travail qu'il faut finalement faire appel à des ingénieurs européens qui savent. Et le chemin de fer, au lieu de coûter 140 000 roubles, coûtera 600 000 roubles.
Quatre parce fois qu'ils vont devoir comme, refaire le travail qui avait été mal refaire. Fait.
Vous savez, comme tout chantier qui se respecte, on dépasse largement ouais. les prévisions initiales.
Mais dans quelles conditions de travail, Clive Lemming? Parce que s'il fait moins 30 aujourd'hui et qu'on ne peut pas aller sur la terrasse du Transsibérien, on imagine les travailleurs qui ont construit cette ligne.
Mais ils sont contents qu'il fasse moins 30 parce que comme ça, ils cessent de patauger dans l'eau. Vous savez, quand on pose les traverses en été, quand le train avance, il y a des petits jets d'eau au bout des traverses. La ligne flotte. Et en hiver, elle tient, vous voyez. Et alors, le problème, c'est qu'ils ont oublié, ces braves gens, de faire des aiguillages. Ce qui fait que quand les premiers trains se rencontrent nez à nez, le premier aiguillage est à 300 km en arrière pour l'un et à 200 pour l'autre. Alors ça, c'est la grand-mère de Claude Bolling qui m'a raconté ça. Sa grand-mère a voyagé sur le premier transsibérien. Alors, on faisait descendre tous les voyageurs. Il y avait 4 ou 5 voitures. On mettait des cordes autour des voitures. On faisait tirer par les chevaux. Et les voitures étaient couchées sur un lit de fumier. Donc, un train se couchait à côté de la voie, ce qui faisait que l'autre pouvait passer. C'est et après, dingue. En tirant en sens inverse, ça retombait juste. Hein. Les roues s'emboîtaient exactement sur les rails. C'est une technique absolue. On verrait mal ça avec le TGV aujourd'hui. On soit obligé de descendre du TGV et qu'on le couche sur le côté pour laisser passer de celui qui croise.
Ce que vous racontez dans votre livre, Clive Lemming, c'est que c'est en 1900 que les voyageurs vont voyager pour la première fois dans ce train. La ligne, elle n'est même pas terminée.
Elle n'est même pas terminée. En 1906, elle s'arrête à Karabosk. Il ne reste plus que 1000 km à faire en bateau. C'est quand même, il ne faut pas être pressé. Et on les fait sur un fleuve qui a un nom magnifique, qui s'appelle l'Amour. Donc on arrive entouré d'amour à Vladivostok, ville qui ne sera touchée après que d'une manière plus directe par la ligne à travers la Chine, la Mandchourie, pardon. Et ensuite la ligne sera, on terminera Karabovsk, Vladivostok vers 1912. Donc la ligne n'est vraiment terminée pour de bon qu'en 1912. Enfin, terminée, elle ne sera jamais. Il va falloir ensuite la doubler, il va falloir la perfectionner, il va falloir refaire les ponts qui sont en bois par des ponts métalliques. C'est les Soviétiques qui font ces magnifiques ponts sur la Léna, ces ponts dits de l'amitié, ces ponts dits de la... Vous savez, ces ponts qui portent des noms de qualité et qui sont inaugurés en grande pompe avec des chants magnifiques.
On continue de voyager, on change de continent.
Ah oui, j'ai envie de découvrir le Central Pérou. C'est la plus impressionnante ligne de chemin de fer, le train le plus incroyable pour les voyageurs. Pourquoi ?
C'est la ligne voulue par un Anglais. Il faut toujours quelque part un Anglais un peu fou. Vous savez, pour vouloir quelque chose d'impossible, on lui dit c'est impossible. Il dit la preuve, c'est qu'on va le faire. C'est bien le mot de Henry Meigs. Il s'agit de construire une ligne qui va monter à l'assaut de la cordillère des Andes, en partant de Callao, en passant par Lima. Et cette ligne va servir à descendre des tonnes et des tonnes de minerais. Donc elle fonctionne, comme on dit, dans le bon sens. C'est-à-dire que tout le trafic est à la descente. Mais cette ligne, il va falloir monter contre les montagnes en faisant comme les skieurs. Qui escalade, qui monte en faisant des zigzags. Donc c'est une ligne entièrement tracée en zigzag et on perd un temps fou.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL. Vous écoutez RTL. I can't believe in until I shoot Frank Miller dead. RTL. Est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce petit train là, ce générique, c'était un petit train qui servait plus ou moins d'interlude à la télé dans les années 60. Qu'est-ce qu'on a eu? Duke Ellington, David Gilmour qui a repris le thème de la SNCF, ça quand même c'était très drôle.
Et puis, la bourre, mais bon,
la bande originale du train sifflera trois fois. Voilà, les trains qui inspirent les artistes, les trains de légende, chemin de fer, meeting, c'est ce que l'on découvre sur RTL à l'occasion du centenaire de la construction du Transsibérien. Et c'est l'historien Clive Lemming qui est le chef de gare de la curiosité ce soir. Clive, on est très heureux que vous nous éclairiez de toute votre science sur l'histoire des trains. On était sur le Central Pérou. Pour ceux qui nous rejoignent sur RTL, c'est cette ligne donc qui grimpe sur la cordillère des Andes. Combien de temps, combien d'hommes furent nécessaires pour la construire?
Alors, la ligne a été construite à partir de 1868 et elle est terminée en 1900, ce qui fait donc 32 années. Il a fallu à peu près 10 000. Et encore, je crois que je sous-estime parce qu'il faudrait compter tous ceux qui sont malades. Par exemple, il y a eu des Chinois, quelques milliers de Chinois, mais ne supportaient pas l'altitude. Les Indiens, eux, aimaient bien l'altitude parce qu'ils y étaient nés, mais ils n'aimaient pas du tout ce genre de travail, donc ils ne voulaient pas venir. Et ça a été très difficile pour Meigs de construire cette ligne. Elle est restée la ligne la plus haute du monde jusqu'à la construction de la ligne du Tibet par les Chinois. Donc, dans notre siècle à nous, n'est-ce pas? Mais elle est donc restée la plus haute du monde. Et alors, elle avait une particularité, c'est qu'elle était donc exploitée avec des locomotives à vapeur, mais comme tous les professeurs de physique le savent mieux que moi, plus vous montez en altitude, mieux une locomotive à vapeur fonctionne. Alors que, par exemple, les moteurs diesel tirent la langue.
L'altitude booste ?
Non, simplement, c'est le fait que l'ébullition, le point d'ébullition baisse avec l'altitude sur le thermomètre. L'eau ne bout, sous les eaux de bouillir à 100 degrés, elle ne bout plus qu'à 90 degrés. Comme disait l'adjudant, c'est un angle droit. Et après, elle ne bout plus qu'à 80 degrés. Autrement dit, les locomotives redoublaient de puissance et arrivaient tout à fait.
Donc, c'était le moyen de transport le plus adapté pour vaincre la cordillère des Andes, si j'ose dire.
Mais écologiquement, c'était assez discutable parce que la locomotive à vapeur ne restitue rien à la descente. Alors que la traction électrique serait évidemment l'idéal. Mais la ligne n'est pas électrifiée. Aujourd'hui, elle est en traction diesel, et malheureusement, elle est doublée par une autoroute qui est en train de lui ravir tout son transport de marchandises. Les minerais descendent, c'est une honte, en camion. Alors qu'avec le chemin de fer, ça roule tout seul. On n'a même pas besoin de locomotive devant. D'ailleurs, comme le montre Hergé dans le Temple du Soleil, Tintin, n'est-ce pas, dévale la ligne, vous savez, dans le fameux wagon qui a été désattelé du train.
Mais oui, c'est vrai. Oui.
Ce qui est génial sur cette ligne qui monte tout là-haut à 4783 mètres d'altitude, le central Pérou, il y a forcément un passage de légende, un passage qui fait peur, c'est la gorge de l'enfer. Où est-ce qu'il est situé ce passage et pourquoi il est si effrayant?
Ce passage est situé, là, il faudrait prendre la carte, évidemment, il est situé entre les derniers zigzags. Et cette ligne, je dirais, elle a ceci d'assez effrayant, c'est que d'abord on y étouffe. Il faut des assistances respiratoires. Donc, on n'est pas déjà en forme quand on arrive dans ces gorges de l'enfer où on a vraiment peur que le train tombe. On frôle. Vous savez, la ligne, elle est construite, je dirais, à mi-hauteur d'une paroi rigoureusement verticale. Elle est sur une plateforme tout à fait étroite. Et si on se penche, je sais pas, il y a le vide vraiment à côté. Donc, c'est ça, les gorges de l'enfer. On respire mal, on étouffe, on n'est pas très bien.
Et on a le vertige.
Et dans votre livre « Chemin de fer mythique » qui est publié aux éditions Duchesne, avec les éditions EPA, vous racontez qu'il y a encore une locomotive ou une voiture qui est tombée dans le ravin et qu'on voit quand on circule sur cette ligne, sur la centrale Pérou.
Je peux le garantir pour la ligne de sud de la cordillère des Andes, où il y a des vents tellement violents qu'on voit les trains qui ont roulé. Le ravin est à 45 degrés. Donc les trains ne tombent pas, ils roulent. On voit encore des restes de locomotives qui ont roulé 300, 400, 500 mètres plus loin en contrebas et qui restent donc pesant leurs 40 ou leurs 100 tonnes, complètement bloqués dans la poussière et dans les rochers coincés. On ne peut plus aller les chercher.
Mais c'est
ce cimetière de locomotives.
C'est ce que j'allais vous dire, Clive Lemming. Il y a des passagers qui empruntent encore cette voie de chemin de fer?
Oui, absolument, et qui contemplent d'un œil serein. Ces restes de locomotives qui auraient pu être leur locomotive.
C'est-à-dire que le touriste se paye le zigzag. Pour ceux qui nous rejoignent, rappelez-nous ce que c'est que le zigzag sur cette ligne de la cordillère des Andes
en avançant et en reculant. C'est extrêmement lent parce que la locomotive à chaque fois doit donc reculer pour monter. Après, on change l'aiguillage et on repart en montant. On aurait dû, pour les éviter, faire des tunnels hélicoïdaux. Vous savez, des tunnels qui ressemblent à des ressorts à boudin. Seulement, là, il en aurait fallu 20. La ligne prenait 20 ans de plus pour la construire. Alors que, par exemple, vous savez, le Saint-Gothard n'en a que 4 de tunnels. Donc 20 tunnels hélicoïdaux, c'était au-dessus des ressources financières.
Un tunnel hélicoïdal, c'est quoi?
Un tunnel hélicoïdal ressemble à un ressort à boudin, vous savez, un ressort de sommier. C'est-à-dire que le train est à l'intérieur de la montagne complètement et il monte en tournant sur lui-même. Comme les rampes de parking, où les voitures montent en tournant sur elles-mêmes. Donc il fallait faire ça pour gagner de l'altitude, mais on ne gagne pas en distance. On est toujours au même endroit, mais on grimpe. Et alors Meigs lui a préféré la solution des allers et retours en zigzag avec le train qui avance pendant 4 km, s'arrête, on fait l'aiguille et il va à reculons. La locomotive pousse le train et change de voie et après elle repart en avant. Enfin voilà.
Clive Lemming, vous avez imaginé une ligne? Ah, c'est un rêve, c'est une ligne qui relierait la Chine à l'Europe. Quel serait l'itinéraire?
Je me suis pris pour Ferdinand Lesseps à un point tel que le G8 de 2011 à Paris, 4 et 5 juillet, m'a demandé de venir proposer, c'est le ministère des Affaires étrangères, m'a demandé de proposer pour l'Afghanistan un projet. Et j'ai imaginé une ligne directe entre la Chine et l'Europe, passant par l'Afghanistan, par la vallée du Wahan, qui est une vallée extrêmement sauvage, entourée de sommets à 7000 mètres d'altitude. On ne fait que passer à 5000 mètres. Et on passerait donc par l'Afghanistan, par Kaboul, par l'Iran, par la Turquie, Et la Turquie, évidemment, les Turcs ont construit le tunnel sous le Bosphore, donc on roulerait jusqu'en Europe. Aujourd'hui, on peut rouler de Paris jusqu'à Téhéran. Il ne manque que 970 km pour pouvoir rouler de Paris jusqu'en
Pourquoi
Chine.
Pourquoi elle serait importante, cette ligne, pour vous ?
Elle est importante parce qu'elle permettrait d'acheminer en 12 à 15 jours, ce qui aujourd'hui demande 40 jours par le bateau. Mais rassurez-vous, je ne ruinerai pas le port de Shanghai, parce que même si cette ligne fonctionnait à plein, elle ne ferait guère que 2% du tonnage de Shanghai. Mais elle peut intéresser des produits qui sont plutôt pressés, qui ne peuvent pas attendre le bateau, mais qui sont non plus pas rentables par l'avion, de l'électroménager, des choses comme ça, qui, eux, sont en catégorie moyenne. Donc c'est une ligne que je propose et qui surtout ramènerait à l'Afghanistan, qui en a bien besoin, à la fois une activité et surtout une fortune avec des droits de passage.
Merci beaucoup, Clive Lemming. C'était passionnant comme à chaque fois que vous venez dans notre studio de la curiosité. Chemin de fer mythique, avec notamment de très belles cartes anciennes que l'on vous conseille. C'est publié aux éditions du Chêne.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Vous écoutez RTL.